Séoulscope. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Séoulscope présenté par Jisoo François Kim. Cette semaine, nous avons eu le privilège de rencontrer Rémi Clémenciewicz, un artiste sonore et multimédia français résidant actuellement en Corée du Sud. Au cours de cette émission, nous explorerons en détail son parcours depuis ses débuts en France jusqu'à son immersion dans la scène artistique séoulite. Nous aborderons ses performances récentes, sa collaboration avec des artistes coréens, ainsi que son approche singulière consistant à fusionner le son et l'art visuel.
Bonjour, moi je m'appelle Rémi Clémenciewicz, j'habite en Corée du Sud depuis 10 ans. J'ai fait des études d'art en France. Avant de commencer mes études d'art, j'avais un intérêt très fort pour la musique. Je faisais de la musique, je composais. Donc du coup, mon travail artistique s'est toujours articulé à travers cette idée de relation entre le son et l'image. J'ai commencé à faire mes premiers voyages en Corée en 2009. J'ai fait plusieurs allers-retours pendant les vacances d'été, alors que j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts. Et en 2013, après l'obtention de mon diplôme, je suis parti vivre en Corée directement, en fait. J'avais l'intention, je savais pas que j'allais y rester autant de temps, mais en tout cas, j'avais envie de passer un long moment en Corée du Sud. Et donc, du coup, je suis venu avec un visa vacances-travail au début, en 2013. Et en fait, j'y habite depuis cette année-là, donc ça fait maintenant 10 ans depuis cette année. À part ça, je pourrais vous dire, oui, que je continue le travail artistique qui est un petit peu à cheval entre plusieurs domaines. À la fois celui de des expositions, donc dans des lieux comme des galeries, des musées, mais aussi des choses plus sous la forme de la performance ou des concerts, donc que ce soit dans des théâtres, dans des salles de concert, parfois dans des galeries aussi. Et à côté de ça aussi, j'ai un enseignement, une activité d'enseignement sur la question du design sonore notamment.
Vous préparez justement un concert de danse contemporaine ici au Sincho de Munhwa Pal Chonso. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ?
Je travaille avec un jeune chorégraphe et en fait je l'ai rencontré alors qu'il était danseur et moi j'avais fait la composition et je performais en live également pour un concert d'un metteur en scène qui officie sous le nom de Taper Tuto Studio. C'est quelqu'un qui a une pratique plutôt, on va dire, d'un théâtre expérimental, qui à ce moment-là était danseur mais qui développe maintenant un travail de chorégraphe. Voilà, donc il m'a demandé si je pouvais composer la musique pour deux de ses performances, en fait. Il y en a eu une première qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et là, cette deuxième performance, ici.
Du coup, quelles sont les idées sous-tendantes dans votre art, dans vos projets, en particulier avec l'exemple de celui qui arrive bientôt? Et comment est-ce que vous envisagez de fusionner la danse contemporaine avec votre travail sonore?
Mon travail de musicien se fait généralement aussi dans plusieurs conditions, parfois en solitaire où je fais des concerts solo, parfois je collabore avec des musiciens, notamment des musiciens qui ont fait des études dans la musique traditionnelle coréenne. J'ai cette activité vraiment de composition et de performance pour le milieu de la danse en particulier. Parfois des chorégraphes me demandent de faire des choses extrêmement précises, ont une idée relativement précise avec des envies précises, notamment sur des questions de rythme, d'atmosphère, etc. Mais dans d'autres cas, et c'est la plupart du temps, on me laisse souvent la carte blanche, interpréter à ma manière l'atmosphère et composer la musique.
Et pour revenir sur votre parcours, comment est-ce que vous avez développé votre intérêt pour la musique? Dans quel domaine, dans quel genre musical au début, puis ensuite l'art sonore et multimédia?
Ma première question concernant ma pratique artistique, c'était justement de savoir comment articuler la question du sonore dans le milieu des arts visuels. Concernant la musique elle-même, donc séparée de la question du travail sonore, je me suis intéressé à beaucoup de musique, on va dire, qu'on appelle généralement expérimentale. Dans mon cas, je dirais que j'ai une pratique qui est toujours live, c'est-à-dire que je n'utilise quasiment jamais d'ordinateur pendant mes performances. Des micros, des instruments et ce qu'on appelle des effets qui transforment le son, mais de manière analogique. Donc ça, c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup. Et par rapport à la question du travail plastique, j'utilise très souvent le son dans ces travaux plastiques, mais aussi j'essaie souvent de connecter les deux, c'est-à-dire que si j'ai une exposition dans laquelle je montre un travail sonore. Je vais essayer de faire une performance live qui accompagne en fait le son diffusé par l'installation. Une installation peut être autonome, indépendante, mais elle peut aussi devenir un instrument de musique selon la situation dans laquelle on se trouve. Et de manière générale, je dirais que dans ma pratique, on va dire plastique, mais sonore aussi, les correspondances qu'on peut créer entre le son et l'image, c'est quelque chose qui m'a toujours, on va dire plutôt le son et l'objet dans mon cas, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé.
Vous étiez parfois plus à l'aise même en coréen, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous a fait venir en Corée en 2013? Qu'est-ce qui vous a fait rester? Et comment est-ce que cela, à votre vie en Corée, a influencé votre travail et votre univers artistique, notamment dans le contexte de la scène artistique séoulite?
Alors, tout d'abord, ma première rencontre, entre guillemets, avec la Corée, elle est assez ancienne, puisque mon père, qui était artiste peintre, a eu une exposition dans les années 90 en Corée. Il m'avait ramené à ce moment-là des livres ou des objets sur lesquels figurait le hangul, l'alphabet coréen. Et je sais qu'assez jeune, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai eu cette curiosité, en tout cas, qui a été réveillée. Mais pour moi, le vrai déclencheur, entre guillemets, c'est quand je suis arrivé en première année aux Beaux-Arts. J'avais beaucoup d'amis coréens, en fait, des étudiants coréens qui étaient en échange en France, donc qui étaient avec moi aux Beaux-Arts. Et j'ai sympathisé avec beaucoup d'entre eux et d'entre elles. J'ai fait mon premier voyage en 2009, alors que j'étais toujours en première année, c'était pendant les vacances d'été. Ça a été un choc, parce que j'ai trouvé extrêmement stimulant, en fait, ce pays, sur beaucoup d'aspects. À cette époque, donc, vers la fin des années 2000, il n'y avait pas énormément de bouquins d'apprentissage du coréen. Maintenant, on en trouve des centaines, je pense, de méthodes. Et donc, je me suis plongé dans ce livre, alors que je continuais mes études aux Beaux-Arts, et quelque chose m'a vraiment attiré. C'est-à-dire que le soir, je rentrais chez moi et j'avais vraiment un plaisir et une attente de poursuivre mon apprentissage du coréen. En fait, au fur et à mesure que je pouvais petit à petit me débrouiller à l'oral. J'avais eu l'occasion aussi de pratiquer avec mes amis étudiants des Beaux-Arts. Et en fait, avec les voyages et l'apprentissage continu, quelque chose m'a vraiment aspiré. Quelque chose m'a profondément intéressé et stimulé. Et en 2013, quand j'ai eu mon diplôme, je suis quasiment parti la semaine juste après mon diplôme avec mon visa vacances-travail. Et donc depuis, au quotidien, finalement, c'est vrai que j'ai assez peu l'occasion de parler français. Les seules occasions que j'ai de parler français, c'est quand je parle avec ma famille. Il faudrait que je le fasse plus souvent, mais nos appels sont un peu limités, malheureusement.
Et parlez-nous aussi de votre cours de coréen destiné aux élèves francophones.
Pendant la période du Covid, j'ai été en France pendant quasiment 2 ans. C'était assez compliqué, j'ai eu des soucis de visa et donc j'ai dû rester sur place pendant 2 ans. Je donnais des cours de coréen particuliers depuis plusieurs années. J'ai aussi enseigné le coréen à des employés d'entreprise qui étaient amenés, dans le cadre de leur travail, d'interagir avec des sociétés coréennes. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai fait comme une sorte d'une méthodologie, en fait, d'apprentissage. Et quand je me suis retrouvé en France sans avoir la possibilité de performer, puisque c'est vrai que pendant le Covid, tout a été bloqué. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre au propre, de réagencer toute cette méthodologie, en fait, d'apprentissage et en faire une formation, en fait. J'avais un ami de longue date que j'ai pu revoir à l'occasion de mon séjour en France, qui s'y connaît en vidéo, qui avait lui-même un appareil photo de bonne qualité, et il m'a proposé ça. Il m'a dit, pourquoi ne pas faire cette formation-là, où je te filme, et ensuite on fait le montage et on propose ça comme un produit sur une plateforme. Et du coup, l'idée, ça a été de me filmer. Donc, il fallait que ce soit aussi divertissant, que ce soit dynamique. Et voilà, donc après des mois et des mois et des mois de travail, il y a cette formation qui est disponible qui est toujours disponible sur un site qui s'appelle Podia. Et donc, vous pouvez retrouver la formation en tapant le coréen avec Rémi. C'est le nom de la formation.
Vous avez récemment enchaîné à Jeju, notamment avec le 6e Festival International de Musique Contemporaine. Vous pouvez nous parler plus en détail de vos collaborations avec des artistes coréens?
Pour ce festival-là, j'ai été sollicité par une joueuse de Sang-hwang. Donc Sang-hwang, je dirais en français, on aurait tendance à dire orgue-à-bouche. Elle a cette maîtrise-là de cet instrument traditionnel coréen. Et je l'avais rencontrée il y a quelques années. Et en fait, elle m'a sollicité pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc moi, j'ai été invité en tant que compositeur, mais aussi performeur. Je lui ai demandé d'effectuer des parties de Sang-hwang. Mais finalement, ça s'est fait de manière très... Il y a eu beaucoup de moments improvisés, en fait. Moi, j'ai constitué la structure, entre guillemets, comme compositeur, mais il y a eu beaucoup de souplesse et il y a eu beaucoup de liberté et beaucoup d'improvisation, en fait, pendant le concert. Donc voilà, c'était une belle expérience. Moi, ça faisait longtemps que j'étais pas allé à Jeju. J'y étais allé il y a 11 ans, en fait, alors que j'étais pas encore installé en Corée. Et ensuite, bizarrement, il y a eu 3 concerts consécutifs à Jeju, alors que pendant 11 ans, j'y étais pas allé du tout. Donc, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir me produire là-bas à Jeju. Et donc, sur le concert lui-même, oui, c'était un festival de musique contemporaine. Donc, il y avait plusieurs compositeurs qui ont présenté leurs œuvres. Et moi, je faisais partie de ces invités. De manière assez spontanée, l'idée d'écouter une musique les yeux fermés et d'assister à un concert avec une personne qui est simplement devant son ordinateur, ça peut être intéressant en tant que spectateur, mais c'est vrai que ma pratique, dans mon cas à moi en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu accordé de l'importance à la dimension un peu physique de la performance, que ce soit de la batterie, des instruments live ou des synthétiseurs, d'enregistrer en live des loops, puis de transformer le son, etc. Mais ça implique toujours de bouger en tout cas, même si c'est des petits mouvements parfois. Donc l'idée et notamment avec la question de la danse aussi, puisque les danseurs bougent, et l'idée que le musicien soit complètement séparé, comme avec un mur en fait de séparation derrière son ordinateur, à simplement appuyer sur les boutons de l'ordinateur. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas beaucoup. Donc, j'ai toujours essayé d'être intégré, en fait, à la dimension un peu physique de la performance. Oui, donc je dirais que c'est spontanément, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Après, c'est malheureusement beaucoup de matériel parce que tous les ce qu'on appelle les effets sont des espèces de boîtes en fait, hein, dans lesquelles on fait rentrer un signal audio et qu'on peut transformer en tournant les potards. C'est le prix à payer pour avoir une performance plus vivante, selon moi. Dans mon processus de composition, je dirais c'est quelque part entre la composition et l'improvisation. C'est-à-dire que quand je prépare un concert, on me demande de faire une performance dans un lieu quelconque. Il y a toujours un premier processus où je prends des notes. Et je fais comme une sorte de cadre que je mets sur papier. Et je sais qu'avec ce setting, je vais obtenir tel son. Je sais qu'en jouant de la flûte sur ce micro qui est relié à tel effet, je vais pouvoir transformer de telle manière, je vais pouvoir louper, comme on dit, c'est-à-dire jouer en boucle des parties que j'enregistre live, etc. Donc ça, c'est un cadre qui peut ressembler à de la composition, mais toujours à l'intérieur de ce cadre-là, il y a des éléments on va dire qu'il y a des éléments d'improvisation.
Et pour finir, parlons de vos projets futurs en Corée. Est-ce qu'il y a des nouvelles envies, des nouvelles idées, des inspirations ou des explorations artistiques spécifiques que vous envisagez dans un avenir proche ?
Alors disons, j'ai eu l'occasion à travers les années de faire pas mal d'expositions, donc des choses qui étaient strictement exposées, sans implication forcément de la performance. Mais notamment l'année dernière, à travers un concert que j'ai fait dans cet endroit qui s'appelle Plateforme L, j'ai eu l'occasion, avec un budget, j'ai été aidé par l'Institut français. Idéalement, j'aimerais poursuivre cette direction, c'est-à-dire ce mélange des frontières entre vraiment l'installation et la performance, toujours avec une approche assez expérimentale. Oui, que j'aimerais avoir plus d'occasions comme celle que j'avais eue l'année dernière à Plateforme L. Après, je continue d'avoir beaucoup de plaisir à composer, pour travailler avec des chorégraphes, à avoir des concerts aussi avec des échelles peut-être plus petites, jouer dans des galeries, des musées ou autre. Mais c'est vrai que cette dimension-là un peu de relation directe entre la dimension vraiment visuelle et la dimension sonore, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre.
Si cette interview vous a intrigué, vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet world.kbs.co.kr/french. Vous y découvrirez également des extraits vidéo de cette discussion inspirante sur la page Seoulscope ou sur notre chaîne YouTube KBS World Radio. C'était Jisoo Seok Kim à votre service, avec Kim Hong-ju à la réalisation. Nous vous remercions pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de Seoulscope.